à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui deux jeunes femmes qui sont associées dans une entreprise dont elles vont nous parler. Violaine de Belair, vous avez 34 ans. Vous n'êtes pas mariée, mais fiancée. Vous êtes de la paroisse Saint-Nicolas. Et Nathalie Barbazange, vous avez 46 ans.
Oui.
Et vous êtes de la paroisse Saint-Joseph.
Exact.
Bonjour à vous deux.
Bonjour à vous.
Bien. Je vous ai demandé de venir parce que je sais que vous faites beaucoup de choses formidables, mais je voudrais qu'on parle d'abord un peu de votre métier, de ce qui vous fait vivre. Et vous avez créé ensemble une entreprise qui s'appelle les Tabliers Solidaires, c'est bien ça, qui est une entreprise qui utilise 8 salariés en insertion. Et il y a 2 CDI dans l'entreprise, c'est vous deux.
Oui.
Et tous les autres sont des salariés d'insertion. Je trouve ça déjà un projet formidable. Donc, vous allez commencer par nous parler de votre entreprise. Peut-être, Violaine, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous faites avec les Tabliers Solidaires?
Alors, avec les Tabliers Solidaires, donc on est un traiteur. Et on s'adresse principalement aux entreprises, aux institutions et aux associations. Et on leur propose des déjeuners le midi, du lundi au vendredi. On fait des prestations d'une dizaine de personnes jusqu'à 150. Ce midi, on a fait un repas pour 150 personnes. Donc ça peut être du repas assis ou de la pièce cocktail. Donc c'est vraiment de la prestation traiteur classique. La spécificité, c'est qu'on travaille essentiellement avec des produits de la région Occitanie, en bio quand on le peut, et on est en 100% consigné, donc on emmène à chaque fois sur nos prestations notre vaisselle qu'on lave
ensuite. Batterie de cuisine, etc., enfin tout ce qu'il faut pour...
Exactement.
Donc c'est froid et chaud?
C'est froid et chaud.
Et c'est exclusivement le midi?
Et c'est exclusivement le midi. Alors pour le soir, on propose de la livraison simplement, mais sans le service.
D'accord.
Voilà, pour une clientèle, ça peut être des particuliers de temps en temps.
Livraison par exemple, plateau repas?
Alors... Oui, c'est un peu le principe. Donc pareil, dans des contenants qui sont consignés, on peut livrer à des familles un repas ou pour un événement. Ça nous arrive le vendredi soir de livrer pour un baptême le lendemain, des plateaux de pièces cocktail ou un menu entrée plat dessert.
Mais par exemple, je veux recevoir des amis un soir, on va être 8 à table, je peux vous appeler?
Tout à fait.
Oui. Et donc, vous arrivez, vous me livrez le repas prêt avec les consignes dessus.
Avec les consignes dessus, prêt à déguster, vous n'aurez plus qu'à réchauffer. Et voilà.
D'accord. Donc, vous avez votre activité principale, c'est à midi traiteur pour des entreprises, des organisations diverses et variées. Et le soir, éventuellement, plateau repas ou repas en kit pour
les particuliers.
Pour des particuliers.
Tout à fait.
Très bien. Et vous êtes situé où?
Et on est à Soupetard. Donc pour l'instant, on est dans un tiers-lieu où il y a plusieurs autres associations. Donc on partage une cuisine en attendant d'avoir nos locaux définitifs qui seront à Bordes-Rouges, on espère, au printemps prochain.
Et comment on vous contacte? Il y a un site internet?
Alors vous pouvez nous contacter sur le site internet des Tabliers Solidaires. Vous tapez Tablier Solidaire sur Google, on va apparaître tout de suite. Ou sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram ou sur LinkedIn.
Alors Nathalie Barbazange, parlez-moi un peu de l'organisation, puisque vous m'avez dit, enfin ce que j'ai dit en vous présentant, vous avez 8 salariés, c'est pas rien de donner 8 salaires, qui sont tous en insertion.
Alors effectivement, donc les Tabliers Solidaires, c'est une association, mais c'est aussi un chantier d'insertion. Alors, un chantier d'insertion, qu'est-ce que c'est? C'est une structure dans laquelle on emploie des personnes qui sont très éloignées du marché du travail et on leur propose en fait un premier travail. Alors, parce que ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Pour nous, évidemment, comme Violaine l'a dit, c'est du traiteur, mais ça peut être dans tous les domaines. On leur propose donc un premier emploi dans lequel elles ne travailleront jamais à temps plein. Hein. Chez nous, elles sont à 28 heures maintenant. 26 heures par semaine, parce que suppose que des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps ont besoin de prendre leur temps. Hein. Voilà. Et donc, on les accueille, on les, leur permet donc d'avoir une activité professionnelle, ce qui leur demande de se remettre dans le rythme, d'arriver à l'heure le matin, de retravailler en équipe, de retravailler sous l'autorité d'une personne qui va donner les consignes. Et puis, parallèlement à ce travail, en fait, il y a tout un accompagnement socio-professionnel qui est réalisé par une troisième personne, mais qui ne vient qu'une fois par semaine, le lundi. Et donc, cette personne qui s'appelle Chloé, elle reçoit chaque salarié. Et alors, elle les aide premièrement à régler leurs problèmes personnel, on va dire. Donc, il peut y avoir des problèmes de garde d'enfants, il peut y avoir des problèmes de logement, il peut y avoir évidemment des problèmes de langue. Donc, on règle d'abord ces problèmes-là, et une fois que ces problèmes-là sont réglés, eh bien, on les oriente vers la deuxième partie qui est spécifique d'un chantier d'insertion, de leur dire qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie au niveau professionnel.
Et donc, l'organisme d'insertion auquel appartient donc cette personne, vous avez dit
Chloé.
L'organisme d'insertion, lui, comment s'appelle-t-il ? C'est une structure...
Alors, c'est une structure qui s'appelle AFIDEL et qui travaille, qui prend en charge l'accompagnement socio-professionnel de plusieurs chantiers d'insertion à Toulouse. Et nous, on avait tout intérêt à nous allier à eux parce qu'on était tout petits, on connaissait pas grand monde. Et donc, on a pu s'appuyer sur l'expertise de Chloé.
Et vos collaborateurs qui arrivent donc dans ce cadre-là, ils connaissent déjà le métier ou c'est vous qui les formez ?
Alors, une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'on est un chantier d'insertion 100% féminin. Voilà, sur Toulouse, on est la deuxième structure à le faire. Pourquoi on a choisi 100% féminin ? Parce que de fait, 85% des places en insertion professionnelle sont occupées par des hommes. Et donc, bon, la mairie, le département et l'État n'ont pas vu d'un mauvais œil qu'on oui. réserve une structure pour des femmes. Et donc, pardon, votre question, c'était ?
Est-ce que ces gens-là qui vous arrivent, il faut que vous les formiez ? Est-ce qu'ils connaissent le métier ?
Alors, en fait, toutes les femmes cuisinent. Après, on a
ça,
la
c'est
moitié.
C'est une vision un peu sexiste. Hein,
non, parce que de fait...
Des hommes qui cuisinent.
Bien sûr, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais voilà, donc elles savent cuisiner. Évidemment, elles ne connaissent pas le métier de cuisinier professionnel. Et ça, c'est vraiment le rôle de Violaine, de leur apprendre à cuisiner de manière professionnelle. Violaine, en plus, ayant...
Une formation, oui, parce que alors il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que vous, Violaine, vous êtes un cuisinier professionnel au départ. Vous êtes formé pour ça, vous avez des diplômes, etc.
Qu'est-ce que vous avez ? Oui, alors moi j'ai fait une école de cuisine à Paris qui s'appelle Ferrandi, après des études de droit. Et j'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans, après mon école. Et surtout, j'ai fait de la formation aussi parce que j'ai travaillé à l'atelier des chefs, où je donnais des cours de cuisine et de pâtisserie. Donc, ce côté formation me plaît beaucoup. Voilà, plus que faire la cuisine, expliquer comment faire la cuisine. Et voilà, vraiment, vraiment la formation.
Donc, ça ne vous dérange pas de prendre des gens, même s'ils ont... un niveau très sommaire en matière de cuisine.
Oui.
Et vous, Nathalie Barbazange, vous avez votre background avant de...
Alors, en fait,
lancer
moi,
dans cette aventure.
J'ai travaillé 20 ans en hôtellerie, en gestion hôtelière et restauration, dont 10 ans en Europe centrale, donc en particulier en Roumanie, où j'ai travaillé sur un projet de création d'une école hôtelière. Parce que en Roumanie, il n'y a aucune formation avec une qualité européenne dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Et du coup, les gens qui travaillent là n'aiment ni leur métier ni ils savent le faire correctement.
D'accord.
Donc voilà. Et donc j'ai connu là-bas, en Autriche et ensuite en Roumanie et ensuite en Autriche, j'ai travaillé avec des apprentis. Donc, j'avais aussi cette connaissance de l'apprentissage. Et donc, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, j'aimerais faire une structure qui ressemble. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en ayant touché du doigt la situation de la femme dans ces pays d'Europe centrale, quand je suis rentrée en France, j'ai été frappée de voir combien il y avait de femmes qui se trouvaient démunies pour rentrer sur le marché du travail. Et donc, je me suis dit, je veux faire un peu la même chose que ce qu'on a fait en Autriche et en Roumanie, mais le faire en France, et donc le faire non pas avec des apprentis, c'est-à-dire des jeunes, mais avec des femmes, et donc donner la possibilité à des femmes de mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail.
Et alors, vous êtes rencontrées comment toutes les deux ?
Alors, par un ami en commun divers solidaire, justement. Qui nous a mis en contact, qui m'a dit, regarde ce que fait Nathalie, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais commencé à monter ma structure toute seule et j'avais démarré, donc vraiment de traiteur, de livraison, un peu ce qu'on fait actuellement, mais en plus petit. Mais j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire seule. Et du coup, ça a été vraiment une rencontre fortuite parce que nos compétences se sont alliées,
additionnées
au moment où Nathalie allait démarrer. Décembre dernier.
Alors, je pense aussi, je crois qu'on peut le dire sur cette radio-là, que moi, j'avais beaucoup prié pour trouver quelqu'un qui pourrait me seconder dans la partie cuisine, parce que même si je sais le faire, ce n'était pas ça que je souhaitais faire.
Ce n'était pas le cœur de ce qui vous intéressait.
Voilà, et du coup, vraiment, j'étais très sereine. J'étais très sereine parce que je savais que d'un moment à l'autre, ça viendrait. Effectivement, j'avais publié une annonce sur le site des Scouts d'Europe, l'association des anciens du Scout d'Europe, des Scouts d'Europe, parce que j'en suis la secrétaire. Et du coup, c'était, c'est l'ami de Violaine qui a lu l'annonce et qui lui a dit, ça a été extraordinaire.
Donc, il y a eu une main invisible,
exact.
Un hasard pour les mécréants, qui vous a guidé l'une vers l'autre. Mais vous, Violaine, vous avez parlé d'hiver solidaire. Je crois que vous avez eu effectivement une expérience d'aide. Alors, j'ai reçu ici, il y a quelques semaines, les promoteurs d'hiver solidaire, Jean-Roch, Augustin et Castelbajac.
Barthélémy
de Castelbajac, qui nous ont expliqué ce qu'était Hiver solidaire et le fait que ça allait redémarrer là en décembre et la nécessité d'avoir des repas préparés et des petits déjeuners préparés pour les gens qu'on accueillait dans des lieux comme ça où ils venaient passer la soirée et la nuit. Donc j'imagine que vous, c'est dans ce cadre-là, vous prépariez les repas, c'est ça ?
Alors tout à fait. Moi, j'ai découvert Hiver solidaire donc il y a 2 ans au moment du deuxième confinement. Donc l'aventure des tabliers solidaires pour le coup n'avait pas encore démarré et j'ai vraiment beaucoup aimé passer ces soirées avec ces hommes de la rue, parce que pour le coup là c'est que des hommes qui sont accueillis à Hiver solidaire. Et ce que je trouve très frappant et un peu ce qu'on retrouve aussi nous dans notre métier, c'est-à-dire que le repas fait le lien entre ces gens de culture, d'origine différente, et qu'autour d'un repas on peut partager. Et que c'est un prétexte pour la convivialité et pour être ensemble. On arrive, on réchauffe les plats ensemble, on met la table ensemble, on passe toute la soirée ensemble avec d'autres bénévoles. Et c'est vraiment des moments de joie et de partage. Donc en plein deuxième confinement, moi ça a été une bouffée d'oxygène et un peu de liberté. Et donc forcément l'année suivante, quand ça a repris, je me suis portée aussi volontaire. Pour préparer des repas et pour passer des soirées. Et on avait démarré l'établier solidaire. Et j'ai proposé, du coup, naturellement, aux filles, à l'équipe, de préparer des repas pour les personnes accueillies d'hiver solidaire.
Pour les SDF.
Pour les SDF, tout à fait. Et on essaiera cette année de le refaire. Et ce que j'aimerais bien qu'on fasse aussi cette année, c'est qu'on puisse aller toutes en équipe y passer une soirée, pour qu'elles puissent aussi, de leur côté, voir ce que c'est, passer la soirée avec ces hommes, ces SDF, et partager ce repas.
Oui, parce que effectivement, les salariés que vous avez là en insertion ne sont pas forcément habitués à côtoyer ces milieux de SDF, qui c'est encore autre chose, les SDF. Hein, on est loin de l'insertion, là. Pour eux, c'est d'abord le logement et la survie au quotidien.
Oui.
Hein, donc, vous pensez que ça va fonctionner, ces deux...
En fait, je crois que Violaine et moi, on a vraiment l'envie que ces femmes grandissent, s'intègrent aussi, et que actuellement, elles ont la chance quand même, c'est une chance d'être dans un chantier d'insertion, elles ont la chance d'être très soutenues, très encadrées, et en fait, on souhaiterait qu'elles puissent au moins de temps en temps donner un petit peu en contrepartie de tout ce qu'elles reçoivent. Voilà. Et du coup, bon, l'année dernière, moi, j'ai pas pu le faire, hein, mais c'est vrai que là, comme l'équipe est plus grosse, enfin voilà, d'essayer de faire en sorte que ces femmes-là, au moins, elles se confrontent aussi peut-être à des personnes qui ont encore moins qu'elles, ce qui leur permet peut-être aussi, permettra, enfin j'espère, de se rendre compte aussi de tout ce qu'elles reçoivent actuellement. Parce que très vite, ces personnes s'habituent, ouais, à ce qu'on leur tende la main, à ce qu'on les aide, à ce qu'on les soutienne. Et elles peuvent du coup, ben voilà, alors, considérer qu'il n'y a pas assez.
Oui, dans les contrats que vous avez, donc vous nous avez dit que les 8 salariés là, qui sont en insertion, ce sont des contrats de 26 heures par semaine.
Oui.
Donc ce n'est pas des temps pleins, c'est une fin. Et est-ce que c'est des contrats à durée déterminée? Est-ce que vous vous engagez à les prendre pendant, je ne sais pas, 18 mois, 12 mois, et ensuite, justement, elles devront voler de leurs propres ailes? Ou est-ce que c'est un peu à durée indéterminée? Comment ça marche?
Alors, l'État, le système des chantiers d'insertion, l'État lui a fait des règles. Et donc, le minimum, c'est 4 mois. Et le maximum, c'est 24 mois. Après, de fait, dans tous les chantiers d'insertion qui se tiennent un petit peu, on dit qu'il ne faut pas garder les salariés plus d'un an parce que sinon elles se reposent en se disant « Ouf, j'ai encore un an de salaire assuré » et elles ne se projettent pas vers un futur professionnel. Or, le chantier d'insertion, c'est vraiment ça, c'est leur donner juste un travail.
C'est temporaire par définition.
C'est temporaire et ça doit rester temporaire pour que, on leur donne un petit peu le...
Le pied à l'étrier.
Voilà, ouais. Le pied à l'étrier et leur dire, mais
et la compétence aussi qui leur permettra de postuler sur un certain nombre d'emplois.
Voilà, mais après, elles choisiront vraiment, ça c'est important de le dire, hein, les femmes qui viennent chez nous, elles ne sont... Enfin, on ne les poussera pas à rester dans la restauration, parce que la restauration classique, pour des femmes qui ont des enfants, c'est le soir et c'est le week-end, donc non. Mais donc c'est vraiment de leur dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Et voilà, donc là, actuellement, on en a une qui a déjà fait une formation d'assistant comptable paye. On en a une qui a signé directement un CDI en restauration classique. Mais les prochaines, on a une qui voudrait faire, par exemple, de la préparation de commandes. On en a une qui voudrait être AESH, donc assistante de vie scolaire, hein, pour les enfants handicapés. Donc voilà. Et donc, on les pousse, on leur dit, attention, ici, c'est... Donc, on leur fait des contrats. Le premier contrat est forcément de 4 mois, puisque l'État nous le demande. Et ensuite, on peut renouveler 2 mois, 1 mois, jusqu'à ce qu'elles aient fait d'abord un stage. Et puis ensuite, on les a aidés à trouver une formation professionnelle ou un emploi définitif.
Alors là, concrètement, en ce moment, vous en avez 8. Quels sont leurs profils? Quel âge elles ont?
Alors,
d'où viennent-elles?
Ça va de 28, après si je ne me trompe pas, à 57 ans.
Ah oui, c'est assez diversifié.
C'est assez diversifié. On a la moitié qui ont la nationalité, enfin qui sont françaises, et l'autre moitié issue de l'immigration, qui ont des titres de séjour ou qui ont eu la nationalité française récemment.
D'accord. Et qui sont plutôt d'origine d'Afrique?
Alors, Afrique du Nord, on a le Soudan aussi. Mais sinon,
et après la Tchétchénie.
Et la Tchétchénie. Et on a une Ukrainienne aussi l'année dernière.
Oui.
Qui était arrivée dans le cadre des rapatriements.
Alors non, avant.
Avant.
Elle qui est mariée à un Français. Voilà. Et qui avait du mal à convertir son diplôme ukrainien avec un diplôme français, qui avait pourtant un niveau d'études assez, assez haut, et qui est partie faire une formation en comptabilité.
D'accord. Et vous... être tenu d'employer des gens donc, qui ont quand même des permis de séjour et des papiers en bonne et due forme.
Oui.
Vous n'êtes pas dans l'insertion de gens sans papiers.
Non. Alors après, on est en relation avec des structures qui s'occupent plutôt exclusivement des personnes qui sont sans papiers. Mais pour un chantier d'insertion, il faut forcément des papiers. Et ensuite, il faut
pouvoir signer un contrat de travail, un bonnet du forme, etc.
Voilà. Et puis, parce que l'État doit nous donner, chaque personne, en fait, est référencée sous un numéro de dossier. Et donc, nous, on doit fournir ce numéro de dossier pour pouvoir recevoir les aides financières que l'État nous donne par le fait d'employer des personnes très éloignées du monde de leur travail.
Et d'un point de vue, ensuite, rémunération, etc., ça passe directement... Comment ça passe, par l'intermédiaire de l'organisme d'insertion ou vous passez directement avec elle?
Alors, c'est nous qui les rémunérons et ensuite, c'est l'État qui nous rembourse aux frais réels les salaires des personnes en insertion.
D'accord. Et vous avez, j'imagine, tout type de confession, y compris des musulmanes.
Oui. De fait, on a la moitié, actuellement la moitié qui sont musulmanes, la moitié qui sont non-croyantes, alors avec des relents de christianisme plus ou moins marqués. En tout cas, il y en a certaines qui savent certaines choses, mais oui.
Et ça ne pose pas de problème si ce sont des femmes voilées vis-à-vis de vous, du public, de vos publics d'entreprise?
Alors, en fait, quand on les reçoit en entretien, c'est une question qu'on leur pose. On leur demande si ça ne leur pose pas de problème d'enlever leur voile quand on sera en entreprise, mais qu'elles peuvent évidemment couvrir leurs cheveux. Donc, elles ont des charlottes en cuisine. Et quand on va en entreprise, elles peuvent garder la charlotte ou mettre un turban sur la tête.
D'accord. Donc, voilà. Il y a quand même un certain nombre de règles qui doivent... Parce que j'imagine que ça peut gêner aussi des entreprises d'avoir des femmes voilées en train de servir.
Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais ça fait partie des règles qu'on leur explique dès le départ, donc c'est clair.
C'est avant même qu'elles soient embauchées. C'est-à-dire, si elles ne sont pas prêtes à ça, on ne peut pas les prendre.
Alors, on a eu, je pense à ça aussi, parce qu'on donc forcément, quand on cuisine, on goûte ce qu'on prépare. Des femmes qui nous ont dit en entretien qu'elles ne pouvaient pas goûter la viande ou des choses,
donc, à base de porc, etc.
Oui. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, si elles ne peuvent pas, ce sera une autre personne qui goûtera. On adapte aussi les choses.
Oui, parce qu'il peut y avoir aussi ce problème, effectivement.
Tout à fait.
Oui. Bon. Donc ça, on voit bien comment fonctionne votre entreprise d'insertion. Je voudrais, avec le peu de temps qui nous reste, qu'on élargisse un peu le débat par rapport à votre expérience, finalement, vous qui côtoyez au quotidien des gens issus de l'immigration de première génération, oui. Si je comprends bien, exclusivement ou quasiment, voire certains qui, même s'ils sont français, sont quand même des gens qui sont arrivés récemment en France, donc un manque de culture française, des difficultés peut-être aussi s'ils ont des enfants pour connaître les canaux, les réseaux, etc. Enfin, ce sont des publics un peu particuliers. Vous, avec votre recul, comment vous voyez justement les choses? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Est-ce que vous auriez des idées sur la façon de gérer ces populations d'émigrés? Parce qu'on voit bien qu'on est dans une période de notre histoire où on a à faire face à des vagues d'immigration importantes. Et il est vraisemblable qu'avec le réchauffement climatique, ça ne va que s'accroître. Donc, vu de votre point de vue, c'est le bon sens?
Alors moi, je crois, enfin nous, on essaie de dédier quand on a, parce qu'on a parfois des petits creux d'activité, et du coup, on essaie de leur donner des petits cours dans lesquels on leur fait toucher du doigt la culture française, la culture de l'Occitanie. Et par exemple, l'année dernière, au moment des élections présidentielles, on leur a expliqué qu'est-ce que c'était que le vote et comment on vote. Et il y en a une qui vient d'avoir la nationalité française et qui a dit « Moi, j'ai jamais pensé que j'irais voter parce que je ne sais pas comment on fait ». Donc je pense que ces populations-là, en fait, il faut leur donner aussi le moyen, parce qu'elles ne vont pas aller à l'école. Et elles ne vont pas forcément suivre.
Mais elles n'ont plus l'âge d'aller à l'école.
Voilà. Et elles ne vont pas forcément suivre de très très près les programmes scolaires de leurs enfants, surtout en histoire, par exemple. Et donc, c'est important de leur donner. Elles étaient très contentes. Une autre fois, je leur ai parlé des débuts de l'aviation. Et on est allé dans les anciens bâtiments de la TECOER pour livrer. Et je leur ai dit, vous vous souvenez, je vous avais raconté les premiers avions qui partaient de Toulouse. Eh bien, c'est ici. Oh, et elles étaient, mais contentes comme des enfants. Donc, à mon avis... Une des manières, c'est quand même de s'occuper de ces gens-là et de se préoccuper aussi de leur culture française.
De leur donner une culture qui leur permette de s'insérer. C'est votre point de vue aussi, Violaine ?
Alors, c'est mon point de vue aussi, et je pense que le chantier d'insertion est un très très bon moyen, justement, d'intégrer ces personnes-là. Parce que dans ce chantier d'insertion, il y a de la mixité sociale, de population, même entre elles. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont toutes des cultures différentes, hein, entre le Maroc, la Tunisie, la Tchétchénie, etc. Donc en fait, on apprend à vivre ensemble. Un peu, on est comme une petite communauté, chacune avec nos origines. Mais ce qui est le socle et ce qui est en commun, c'est quand même la France. Donc nous, par exemple, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on parle français. Et quand moi, je les entends parler en arabe, par exemple, je leur dis non, les filles, on parle en français entre nous. Voilà. En fait, finalement, c'est des choses assez simples. Et puis, en effet, les petits cours que fait Nathalie sont aussi très, très importants. Ça va même plus loin que simplement les élections. On a parlé la dernière fois du travail, de la valeur du travail, pendant toute une après-midi. Qu'est-ce que c'était pour chacune, le travail, pourquoi on travaille, voilà, le respect aussi. C'est des choses comme ça qui sont un peu philosophiques et qui les poussent aussi à réfléchir.
Bien, ben écoutez, merci beaucoup de nous partager avec nous cette expérience de l'insertion. Je crois que si on avait un mot pour conclure, vous recommanderiez, j'imagine, à d'autres entreprises, notamment à des PME, de recourir à ce moyen, parce que c'est un moyen qui est un bon vecteur pour permettre à des populations qui souffrent de s'insérer.
Oui, alors ça demande aussi une structuration très particulière. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup parce qu'on fait du très bon travail. Alors, on ne va pas toucher 2500 personnes chaque année, mais voilà, je crois que c'est vraiment chouette.
Bien, Nathalie Barbazange et Violaine de Belair, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Et bravo pour ce que vous faites pour nos populations précaires qui nous entourent.
Merci beaucoup. Merci.